Nous l'avons rencontrée pour la première fois dans ce studio l'année dernière. Elle est venue nous présenter une association qui s'appelle Au nom de la Mère Terre. Plusieurs jours de conférences avec des gens venus du monde entier. Elle était venue nous présenter ce projet associatif qui fédère plein de monde tout autour d'une même cause, Au nom de la Mère Terre, qui est aussi notre cause à nous tous. Notre invité du jour aujourd'hui, il s'agit de Lilia Ayala pour un portrait d'une femme médecine. Commence par une musique qui pourrait la présenter avec des notes et des sons. Sur cette terre, tout en naissance. Bonjour Lilia Ayala.
Bonjour James.
Tu es venue nous présenter, te présenter, mais à travers une pratique, une médecine.
Oui.
Nous t'avons découvert l'année dernière lors de cette présentation de l'association Au nom de la Mère Terre. Oui. Et puis ensuite, suite à tout un tas de portraits de thérapeutes, de gens qui font du bien aux autres, ça peut être aussi des artistes aussi, ça peut être aussi des gens qui font du bien aux autres tout simplement. On a eu l'idée de se rencontrer et de présenter exactement ce qu'est une femme médecine quand on est issu d'un peuple autochtone. Tu nous en diras plus. Ça a commencé comment, l'histoire sur Terre?
Alors, comment ça a commencé? Déjà, moi je suis une personne métisse, donc je suis issue de deux peuples différents. Ma mère, elle était européenne, donc c'était une femme basque espagnole. Mais chez les Basques, il y a aussi un monde le monde onirique du rêve est très important. Et il y a aussi, une relation à la terre qui est très profonde. Et mon père, il était d'origine amérindienne, donc Guarani, de la forêt amazonienne. Voilà, donc on va dire que je suis tombée un petit peu dans la marmite comme Obélix, quand j'étais petite. Voilà, donc j'ai été initiée dans ce monde, le monde de la médecine, le monde de l'invisible, depuis l'enfance, voilà.
Il y a eu une transmission par un personnage particulier de ta famille?
Deux personnages particuliers. Du côté de ma mère, j'ai été élevée par une de mes tantes, donc d'origine basque, enfin une femme basque, qui était très attachée à la forêt, aux prières, enfin voilà, pleine de superstitions qu'il m'a fallu trier à la fois. Et en même temps, j'ai été très initiée vraiment à la mère terre, à la Pachamama, par ma grand-mère paternelle. Voilà, qui s'est vraiment chargée de m'apprendre des prières et de m'expliquer que le, La Terre était pas du tout juste une planète un peu perdue au niveau de l'univers, mais bien un être qui respire, qui vit et qui a mis au monde quatre enfants, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Donc déjà, c'est une vision très importante de grandir comme ça, quand on est enfant, voilà.
Lorsque tu as été initié, sur le sol, sur le sol basque, ou alors tu as été initié là-bas chez les Guarani?
Non, j'ai été initié sur le sol basque par ma grand-mère, parce que en fait, je suis née ici, mais quand j'étais toute petite, quand j'avais 3 mois, j'ai été confiée à ma tante en Espagne, et par contre, c'est ma grand-mère qui s'est chargée de toute mon éducation spirituelle. Voilà. Et je remercie beaucoup toutes mes tantes et même ma maman, parce qu'elles ont eu assez d'ouverture pour permettre ça, ce qui était assez incroyable dans les années 60, quoi, dans une Espagne franquiste et très catholique. Donc c'était quand même assez exceptionnel.
Et le lien avec ton peuple, d'une partie de tes origines?
Oui.
Il s'est fait après.
En fait, oh là là, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que voilà, moi j'ai vraiment été initiée par ma grand-mère à toutes les pratiques Guarani, on va dire. Et puis après, je suis revenue en France quand j'avais 14 ans, donc en pleine adolescence. Ça m'a vraiment donné le goût du voyage. Et donc j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Avant de mettre les pieds en Amérique latine, j'ai été 2 ans et demi en Asie. Et donc, j'ai beaucoup voyagé en Chine et au Tibet. Et je suis restée en Himalaya autour en tout cas d'Himalaya pendant 2 ans et demi. Voilà, et ça a été aussi une grande initiation.
L'initiation, elle a été sur toute la planète, finalement.
C'est ça. En fait, c'est ça. Mais la médecine, c'est ça. Il n'y a pas une médecine. Tout le monde a une médecine, en fait. C'est étendu à tous les pays et à tous les continents. Voilà, on parle beaucoup de chamanisme parce que c'est le mot, on va dire que c'est le mot le plus connu. Mais si on prend ce mot, il est étendu en fait à toute la planète. Voilà.
La question que j'ai envie de te poser, je vais te la poser, beaucoup de personnes se posent cette question. Ça consiste en quoi d'être femme médecine et d'apporter des soins?
Alors, d'être femme médecine, en fait, on va dire que déjà, il y a médecine dans le mot. Et le mot femme ou homme médecine, peu importe. Mais quand on est femme médecine, ça veut dire qu'on est capable de traverser deux mondes, du monde visible au monde invisible. Et qu'on va traverser le corps, tous les corps, c'est-à-dire le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. Et toute femme médecine a une médecine au-delà des plumes et du tambour si connu. Voilà. Il faut vraiment sortir de ce schéma folklorique qui réduit beaucoup, vraiment beaucoup, la médecine. Être femme médecine, ça suppose qu'on a, on va dire, le don de réveiller l'autre par des pratiques physiques, émotionnel, mental, spirituel. On va atteindre tout le corps de l'être humain et on va essayer de le guider vers sa propre guérison. En aucun cas on ne peut se dire guérisseuse ou soignante, pas du tout, à moins que la guérison ce soit l'éveil de l'autre, que l'autre il trouve lui-même son propre centre et sa propre voie. Voilà ce que c'est que la médecine. Et en même temps, le fait d'être femme médecine, ça veut dire, en tout cas dans ma culture à moi, chez les Guarani, ça veut dire qu'on est capable de parler avec le monde des esprits et du coup d'essayer de créer un pont d'harmonie entre le visible et l'invisible, puisque pour tous les peuples qui pratiquent le chamanisme, on va dire entre guillemets, puisque on dit que c'est le mot le plus connu, le monde invisible est constamment là. Voilà, et du coup, on est en perpétuelle relation avec. Et la médecine consiste à justement créer une relation fluide et harmonieuse. Voilà, en gros, c'est ça.
Essayer de réunir ce qui est visible et invisible. Est-ce qu'on peut approcher aussi le... On parle beaucoup aujourd'hui de pratiques, notamment de pratiques énergétiques qui ont été un petit peu occidentalisées, peut-être un peu rationalisées, en tout cas dans l'explication, parce que les gens ont besoin de comprendre, et c'est tout à fait normal. Cet invisible dont on parle est souvent, des fois, comparé à quelque chose de pas très compréhensible ou d'un peu, entre guillemets, barré.
D'accord.
Et donc, c'est juste... le but de mon approche et de ma question, c'est de dire ce qui n'est pas visible, ça peut être aussi expliqué par la science ou pas.
Bien sûr.
Mais en attendant, ça peut être constaté. D'ailleurs, il y a beaucoup de chercheurs en physique quantique et puis d'autres chercheurs qui sont tombés sous la grâce de dire « mais là, il y a quelque chose d'extraordinaire ». Je mes propos juste pour relancer en disant... tu apportes des soins vers des gens qui vont du coup guérir grâce au tampon que tu exerces avec les deux. Tu es entre les deux ou comment tu pratiques ?
Moi je me vis comme un pont, voilà, un pont entre ces deux mondes, tout simplement. Et j'essaye de vraiment amener la personne à la traversée de ce pont. Je lui propose le pont, j'ouvre le pont et c'est elle qui traverse ou pas. Je ne peux pas obliger l'autre à traverser ce pont. Voilà. Ensuite, quand on parle de pont, et effectivement de monde invisible, visible, il s'agit d'énergie, d'accord ? D'énergie qui est super bien expliquée par des médecines très anciennes, comme la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, et donc toutes les médecines amérindiennes, qui découlent d'une globalité de l'individu, on part du principe qu'on est énergie. Donc voilà, ça part de là. Maintenant, pour expliquer par exemple cet ordre qu'on va chercher à établir dans certaines pathologies, on va dire, ça va être un ordre au niveau ancestral, exactement comme travaille la médecine chinoise. Et la médecine amérindienne va appeler, enfin ici en Europe, on appelle ça psychogénéalogie. D'accord ? Donc, on ne voit pas les ancêtres, ne sont pas là. Et en même temps, on les trimballe en permanence au niveau énergétique. Bon, voilà. Donc, pour nous, c'est ça. Ça va être le premier outil, le premier élément avec lequel on va essayer de communiquer et de mettre en ordre. Parce qu'on part du principe que lorsqu'une personne ne va pas bien, c'est qu'il y a un ordre à l'intérieur qui a été déstabilisé. Soit par elle, soit par quelqu'un, enfin un de ses ancêtres. Et donc on essaye d'établir ce pont pour rendre la personne le plus libre possible.
Tu parlais d'un pont.
Oui.
Et le petit morceau qui fait la transition musicale que j'ai mis tout au début, ça s'appelle Entre deux gares. C'est un morceau de Jacques Higelin. Et ben justement, on va naviguer entre deux gares, entre le monde du visible et de l'invisible, entre le monde du possible et pour... Non, l'impossible n'existe pas. Puisque...
Non.
Allez, je mets la petite musique qui va bien et on se retrouve juste après. Thank you. Allez, ça y est, on arrive. Entre deux gares, entre deux ponts. Tu nous as expliqué d'où tu venais, tu nous as expliqué ton histoire, la belle histoire, qui fait qu'à un moment donné, on se tourne vers une pratique, vers les autres, vers le partage entre monde visible et invisible. On a parfaitement compris que tu étais complètement inscrit dans ce monde de manière totale,
oui.
Pas coupé de la réalité. Et justement, soyons pragmatiques. Lorsque un patient vient te voir, mmh. quelqu'un qui a besoin de régler quelque chose parce qu'il sent que c'est peut-être bon de venir te voir et aussi parce qu'il s'est peut-être un petit peu renseigné, comment tu le reçois? Comment ça se passe, une séance?
Alors, je le reçois toujours dans un cabinet. Dans un cabinet, voilà. Et après, il y a des gens qui sont très différents. Il y a vraiment des enfants, des femmes, des adultes. Il y a toutes sortes de personnes qui peuvent venir me voir. Donc, l'approche est toujours la même. On a un temps d'écoute. Enfin, moi, je propose tout le temps une écoute de ce que la personne a envie de verbaliser. Et j'observe beaucoup aussi la personne, le mouvement de son corps, la manière de se tenir. Parce que quelquefois, on a beaucoup de mal, les personnes ont beaucoup de mal à exprimer leur mal-être à part par quelque chose de concret. Et le corps parle tout seul. Par exemple, pour un enfant, c'est très compliqué de verbaliser son mal-être. Et du coup, c'est à moi de me mettre à sa portée. Me mettre à sa portée, ça veut dire que je vais évidemment détendre l'atmosphère, on va discuter de son environnement, on va discuter de ce qui l'anime, ce qui lui plaît. Et en même temps, ça va me permettre d'observer son mouvement corporel. Voilà. En gros, l'introduction, c'est ça. Et ensuite, le soin se déroule systématiquement de la même manière. Je propose un massage qui dure à peu près 1h30, mais ça peut durer 2 heures. Il n'y a pas de temps. Voilà. Il n'y a pas de temps. Il y a un déroulement où je vais utiliser justement 3 médecines. Je vais mélanger la bioénergétique chinoise, donc qui va venir concerner tous les méridiens du corps. Je vais utiliser le toucher fascia, qui est issu de la fasciathérapie, donc du tissu conjonctif. Et en même temps, je vais utiliser la médecine amérindienne, qui est une écoute et un toucher très particulier au niveau du corps. Voilà. On va dire que la bioénergétique chinoise va me donner un diagnostic tout de suite, dès que je vais commencer à mettre les mains sur le corps de la personne. Et ensuite, je laisse vraiment, il y a systématiquement le même déroulé, mais je ne m'arrête pas au même endroit, tout dépend de la personne, tout dépend de son besoin. Voilà. Mais en gros, ça se passe comme ça, 1h30 à 2 heures de soins.
Et après, le patient repart chez lui, reprend contact avec toi.
Souvent, oui. Mais en tout cas, après le soin, on rediscute de son ressenti, de ce qu'il a senti au niveau physique, de ce qu'il a senti au niveau émotionnel, de comment il respire. Il y a souvent un changement au niveau respiratoire qui est vraiment notable. Voilà, les enfants, en tout cas, c'est quelque chose qu'ils remarquent tout de suite, qu'ils arrivent à respirer. Voilà, il y a une nouvelle respiration qui se fait. Pour moi, ça, c'est déjà un gain. Voilà, j'ai déjà gagné si un enfant respire. Et ensuite, s'il a envie de verbaliser, on prend le temps de verbaliser. Et s'il n'a pas envie de verbaliser, je ne force à rien. Mais souvent, les gens me rappellent, oui. Après, mon but n'est pas du tout de garder la personne pendant 10 séances, pas du tout. Mon but, c'est de vraiment rendre autonome et de faire en sorte que la personne arrive à écouter elle-même son propre corps. Voilà.
Eh bien, c'est très clair tout ça. On sait d'où tu viens, on sait comment tu as appris tout ça et tu nous as expliqué comment se passait une séance. Donc là, on est just perfect, j'allais dire. Tu nous as ramené de la musique. Il y a une artiste que tu aimes beaucoup qui s'appelle Kenny Arcana.
Oui.
Et elle chante Pachamama. Tu nous rappelles un petit peu Pachamama?
Alors Pachamama, c'est vraiment l'esprit de la féminité pour moi, pour mon peuple. Voilà, c'est une mère, c'est la première mère. C'est la mère originelle. Donc pour nous, c'est à partir de la terre, de cette mère, que tout naît. Voilà. Et donc, c'est un esprit qui est vivant, qui respire, qui met au monde et qui donne tout. Et ma rencontre, voilà, avec cette chanson et Kenny Arcana, puisque je l'ai rencontré en vrai, et c'était juste incroyable. On a eu une rencontre d'âme à âme dans un endroit totalement improbable. Et voilà, et en fait, sa musique et cette chanson, ses paroles, prouvent pour moi la force de notre culture, puisqu'elle aussi, elle est métisse. C'est une enfant qui est originaire de l'Argentine. Elle est moitié indienne, moitié blanche. Elle a été élevée ici, en Europe. Elle fait partie des enfants qui ont été volés à Buenos Aires, à des parents qui ont manifesté contre le gouvernement. Et cette fille... elle a en elle exactement la même chose que moi et que des milliers de personnes issues de cette culture. On a la mère infusée dans nos cellules. Et sa chanson, voilà, je vous demande juste de prendre le temps d'écouter ses paroles.
Ses paroles, je t'avais demandé de ramener la première musique qu'on a entendue au début de cette émission, Canto para Nacer, qui était celle qui incarnait ce que tu étais toi dans l'existence de tous les jours. Là, ce sera ce que tu incarnes en tant que soignante. Ça te va ?
Ça me va.
Et on se retrouve juste après. Écoutez bien cette chanson.
Sois l'amour de tes enfants qui veulent retrouver ton sein, qui viennent se connecter ensemble pour retrouver le grand un, qui ont conscience que nous sommes tout et qu'à la fois nous ne sommes rien, qu'on te doit tout, chère maman, déjà mère de nos anciens. Pardonne le monde et son ego, bien trop ingrat pour voir le bien. Louons ta gloire et ta splendeur pour préparer le jour prochain. Tu es la reine, la mère chérie, martyrisée par nos engins aux vibrations bien trop pur pour nos âmes de demi-humains. Reçois l'amour de tes enfants qui ont conscience et intuition, qui malgré les interférences n'ont pas oublié la mission. Chevalier dans la brume qui entend sonner le glas, levant un sabre de feu devant un paradis de glace. Pardonne-nous la division, Diablo a bien fait son travail. On a retrouvé ta chaleur sous leur béton et leur gravat. C'est que le charnier, c'est le changement qui vient frapper à notre porte. Accueillons-le, le cœur léger, pour passer à une autre époque. Oh Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama.
Allez, on l'écoute vraiment jusqu'à la dernière note de Kenny Arcana, Pachamama, qui représente un petit peu l'énergie de Lilia Ayala, qui est une femme médecine. D'ailleurs, on va maintenant concrètement, mais on peut te trouver où ?
On peut me trouver à Fort Calquier.
Waouh, c'est pas loin en plus.
Non, c'est tout près. Voilà.
Fort Calquier, où tu as un cabinet où tu exerces ?
C'est ça, j'ai un cabinet aux 4 places du Palais à Fort Calquier, un petit cabinet que je partage avec d'autres thérapeutes. Et voilà. Et en même temps, on peut aussi me trouver sur Internet où j'ai un site sur lequel on peut trouver un mail. Et du coup, je reçois pas mal de courriers justement à travers ce site qui
évidemment
s'appelle Lumière et Conscience.
Lumière et Conscience, vous retrouverez tous ces liens sur le site de fréquencemistral.com puisque cette entrevue va être podcastée. On te trouve à Fort Calquier, on te trouve aussi pour un projet qui te tient à cœur et nous allons en parler puisqu'on a fait le portrait rapido expresso de ta pratique pour donner simplement envie aux auditrices et aux auditeurs de s'intéresser à quelque chose qu'ils ne connaissent pas forcément, et puis aussi de faire connaître l'action d'une femme médecine, mais d'une femme peut-être tout court. Une association au nom de la Mère Terre, c'est le projet que tu es venu nous présenter l'année dernière pour 3 jours de conférences, de séminaires au couvent des Cordeliers, dans un endroit absolument magique, et puis où du coup là, visible, invisible, les gens qui ont occupé les lieux au départ, ils étaient quand même assez initiés à ça.
C'est ça.
La question suivante, l'année dernière, ça a été vraiment un grand succès, malgré la crise sanitaire, malgré les difficultés. Cette année, vous en êtes où ? Tu nous rappelles déjà l'association au nom de la Mère Terre. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, au nom de la Mère Terre, c'est une association qui regroupe à peu près 12 volontaires fous, extraordinaires et utopistes. Voilà, on est une équipe incroyable, complètement différente, complètement différents les uns des autres. On va de 12 à 89 ans. Toute personne, on va de 12 à 89 ans et on est des personnes vraiment avec une foi inébranlable en l'humain. Ça, c'est déjà, je pense, la première note. Et donc, convaincue qu'on peut transformer les choses. Et à la fois, c'est vraiment le propre de la femme médecine, de rester toujours en lien avec la terre. Et je pense qu'au nom de la Mère Terre est ça. C'est vraiment une ouverture sur un pont où on fait traverser des personnes de tous les pays du monde. Enfin, on essaye vraiment de joindre les 5 continents pendant 3 jours et de proposer une écoute qui va naviguer entre médecine ancestrale et connaissances vraiment extraordinaires, et médecine moderne aussi, et journaliste, et philosophe, écrivain. Il y a vraiment... c'est un ensemble de personnes qui ne se connaissent pas et qui arrivent à tisser cette toile qui va faire la marche du pont. Et ça va avoir lieu à Fort-Calquier, 3 jours, le 12, 13 et 14 août de cette année, au couvent des Cordeliers, toujours, parce que c'est vraiment un endroit très magique. Et on aura 11 conférenciers, 12 cette année, puisqu'on a fait le pont avec des lycées. Il nous semble très important. Et puis, il y a aussi cette demande de la part de la jeunesse qui a besoin d'espoir. Et je pense qu'au nom de la Mère Terre est un espoir de vie. Et voilà. Et donc, qu'on aura des jeunes d'un lycée de Digne-les-Bains qui vont venir s'exprimer aussi sur leur manière de voir le monde, ce qu'ils attendent, et surtout leur vision de l'adulte.
Donc ça va se passer au mois d'août, évidemment, au mois d'août, ça va être tout doux. Évidemment, vous reviendrez avec toute votre équipe pour présenter le projet d'une manière plus précise, avec le programme, avec... Mais c'est simplement pour faire le pont entre la femme médecine que tu es et qui n'est pas simplement centrée sur ton activité à toi, qui génère forcément une économie parce qu'il faut bien manger, et puis aussi s'occuper aussi du reste et d'avoir une ouverture sur le monde. Un thérapeute qui n'aurait pas d'ouverture sur le monde, ce serait très très embêtant, dit-il en riant. Pourquoi ? Je ne sais pas. Juste avant de nous dire au revoir, parce qu'on arrive à la fin de cette entrevue, tu nous as parlé tout à l'heure de l'Espagne.
Oui.
Et la dernière musique que tu as ramenée, c'est une musique d'un film.
Oui. Volver.
Ouais. Pedro Almodóvar, c'est une référence.
J'adore.
Oui.
J'adore parce que je trouve que c'est un homme pachamamesque, justement. C'est un homme pachamamesque parce que c'est un homme...
Pour faire le lien avec tout ce qu'on a entendu.
Ça. C'est un homme qui comprend les femmes et qui laisse toute sa féminité jaillir à travers ses films. La féminité n'est pas donnée que à la femme. Voilà. Et voilà. Et donc, Pedro Almodóvar, pour moi, c'est un homme extraordinaire qui arrive à faire des vrais portraits de femmes. Et j'aime cette musique qui parle de retour et de valeur. De valeur et de faire des allers-retours, justement, entre un passé et un futur qui devient son vrai présent dans cette chanson Volver. Voilà.
Ce sera tout simplement le mot de la fin. Et tu termines cette entrevue en beauté, puisque tu parles de ce don qu'ont les gens de rendre la féminité à qui elle appartient, c'est-à-dire aux hommes et aux femmes, et aux femmes et aux hommes dans un système de vases communicants.
La féminité est une énergie.
Bon. Alors, du coup, je vais prendre des cours auprès de Pedro Almodóvar pour faire des portraits qui soient des portraits de femmes réussis. Merci beaucoup, Lilia Ayala. Tu es la bienvenue ici dans ce studio. Merci d'avoir apporté autant de lumière et autant de douceur et autant de force.
Merci, Clem.
Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente maldita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.